VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 30 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, enquête sur le crash d'un hélicoptère de la MONUSCO qui n'exclut pas une attaque. En Guinée, le chef de la gendarmerie et le procureur général de Conakry ont été limogés. La BBC est à nouveau autorisée au Burundi. La voix de l'Amérique est toujours suspendue. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken termine sa tournée régionale en Algérie après le Maroc et Israël. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Dans l'est de la République démocratique du Congo, selon les premiers éléments d'une enquête de l'ONU, un objet lumineux aurait causé le crash de l'hélicoptère dans lequel 8 casques bleus ont péri hier. Les détails avec Nani Talani.
Les remarques préliminaires de notre état-major font état d'un crash qui aurait été causé par un objet lumineux. Nous n'excluons aucune piste, y compris celle d'une attaque, a déclaré Kassim Diagne, représentant spécial adjoint au sein de la MONUSCO. Ndeye Kadilo, porte-parole adjointe de la mission onusienne, affirme que les débris de l'hélicoptère ont été retrouvés. Une enquête est en cours. Selon elle, la cause du crash semble extérieure, mais il est prématuré de dire que ce n'est pas un accident. Les corps des 8 casques bleus, 6 Pakistanais, un Russe et un Serbe ont été ramenés à Goma. Le crash est survenu alors que l'appareil était en reconnaissance dans la zone de Tianzhou, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, où de violents affrontements opposent depuis quelques jours l'armée congolaise aux rebelles du M23. L'armée congolaise accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. Kigali a fermement démenti.
Au Burundi, le régulateur des médias a annoncé la réouverture de la radio britannique BBC qui n'était plus autorisée à diffuser dans le pays depuis 2018. Le Conseil national de la communication avait suspendu la diffusion de la BBC et de la Voix de l'Amérique le 4 mai 2018. VOA n'a pas vu sa suspension levée depuis lors. En Guinée, un procureur et le chef de la gendarmerie nationale ont été suspendus de leurs fonctions par les autorités de la transition à la suite de leur prise de parole dans la presse. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Tout est allé très vite. D'abord lundi, le procureur général, après la cour d'appel de Conakry, organise une conférence de presse pour accuser Bala Samoura, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, d'interférer dans les affaires judiciaires. Le haut commandant n'a reçu aucune habilitation du procureur général. Il est le commandant des gendarmes, il ne peut être le commandant des polices judiciaires, s'est défendu Charles Wright le lendemain dans Mirador, une émission de débat sur FIM FM, une radio privée. Le même jour, le colonel répond au procureur dans les GG, une autre émission de débat sur Espace FM. Que la loi le dise ou pas, c'est le rôle de la gendarmerie et le commandant de la gendarmerie. Si on ne le fait pas, ça va aller dans tous les sens, a répliqué le patron de la gendarmerie nationale. Le procureur reproche par exemple au commandant de la gendarmerie d'avoir fait arrêter l'ancien ministre des Affaires étrangères, dont les avocats ont affirmé que l'ancien haut responsable proche d'Alpha Condé avait été amené sans avoir été convoqué officiellement. Le procureur et le haut commandant de la gendarmerie ont été chacun suspendus de ses fonctions. Le premier pour faute disciplinaire, le second pour non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Fédération égyptienne de football, dont l'équipe nationale a échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 après sa défaite contre le Sénégal, a déposé une plainte contre les Lions de la Teranga pour violence et racisme. Les photos publiées par la Fédération montrent des vitres cassées du bus transportant les pharaons, des banderoles d'insultes contre Mohamed Salah et des membres du public faisant des gestes injurieux aux joueurs. Le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre, est en Égypte pour la première fois. Il a rencontré au Caire le président égyptien al-Sissi. Claire Moragibour nous en dit plus.
Le général Abdel Fattah al-Burhan a été accueilli au palais présidentiel au Caire par Abdel Fattah al-Sissi. Les deux chefs de l'État ont discuté du renforcement des liens économiques et du commerce, ainsi que l'approfondissement de la coopération sur les plans sécuritaires et militaires. Le différend autour du barrage éthiopien sur le Nil Bleu a aussi été abordé. Le Caire et Khartoum sont tous deux touchés de plein fouet par l'inflation depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et s'inquiètent pour leurs importations de céréales. L'Égypte est le premier importateur de blé russe et ukrainien. Le Soudan, qui a perdu son aide internationale, se retrouve étranglé par la hausse des prix des céréales, de l'électricité et du pétrole. Une hausse des prix du pain a été à la base des révoltes qui ont abouti à la chute du président Omar el-Béchir il y a bientôt 3 ans.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu ce mercredi en Algérie, pays allié de la Russie et producteur majeur de gaz, sollicité pour augmenter ses exportations afin d'atténuer l'impact de la guerre en Ukraine. Jacques Aristide nous en dit plus.
L'Algérie, dernière étape d'une tournée régionale du patron de la diplomatie américaine. Au lendemain d'une visite au Maroc, à Alger, Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue Ramtane Lamamra avant d'être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens ont porté sur la sécurité, la stabilité régionale, la coopération de même que sur la situation des droits humains. Le voyage survient alors que les relations entre l'Algérie et le Maroc traverse une grave crise à cause du Sahara occidental qui oppose Rabat aux indépendantistes sahraouis soutenus par Alger. Ce dossier a figuré au menu des entretiens hier à Rabat. Anthony Blinken a réitéré le soutien américain au plan d'autonomie sérieux, crédible et réaliste présenté par le Maroc pour régler le différend et fait part de l'appui de Washington au processus politique sous l'égide de l'ONU.
Le Zimbabwe a commencé à redistribuer des terres inexploitées qui avaient été octroyées aux agriculteurs noirs lors des sanglantes réformes agraires entreprises par le président Robert Mugabe au début des années 2000, a déclaré le ministre zimbabwéen de l'agriculture, Nkosi Masuka. Ceux qui possèdent plusieurs fermes ou ceux dont les fermes sont abandonnées s'exposent à une expropriation, a-t-il annoncé, précisant que les terres seront redistribuées à des novices inscrits sur une liste d'attente.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir bombardé la nuit dernière la ville de Tchernigov dans le nord du pays, malgré l'annonce la veille par Moscou d'une réduction de son activité militaire. Cette promesse a été accueillie avec scepticisme par Kiev et ses alliés occidentaux. Le point avec Eric Manirakiza.
La situation ne change pas. Tchernigov fait l'objet de bombardements d'artillerie et aériens, a affirmé le gouverneur régional, précisant que les habitants sont privés d'eau et d'électricité. À Mariupol, port stratégique assiégé dans le sud-est, un bâtiment du CICR a été la cible de bombardements russes. À Kiev et ses alentours, les sirènes ont été entendues à plusieurs reprises au cours de la nuit. Pourtant, la Russie s'est engagée mardi lors de pourparlers à Istanbul à réduire radicalement son activité militaire autour de Kiev et de Tchernigiv. L'état-major ukrainien se dit très sceptique. Pour le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, il ne s'agirait que d'un repositionnement et non d'un vrai retrait. Les alliés occidentaux de Kiev estiment qu'il faudra juger sur des actes et non de simples déclarations.
Le président américain Joe Biden a discuté ce mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des capacités militaires supplémentaires nécessaires pour aider l'armée ukrainienne à défendre son pays, a déclaré la Maison-Blanche, ajoutant qu'ils avaient souligné l'impact déterminant des armes fournies par les Américains sur le cours du conflit. Et un vaisseau Soyouz a ramené sur Terre ce mercredi 2 cosmonautes russes et 1 astronaute américain de la Station Spatiale Internationale. La capsule à bord de laquelle se trouvaient Anton Chaplirov, Piotr Dubrov et Mark Wanier a atterri dans le sud-est du Kazakhstan comme prévu selon les images retransmises par l'agence spatiale russe Roscosmos. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Jipour.
Le Niger a signé un accord de concession avec la société britannique Savannah Energy pour la construction et l'exploitation de son premier parc éolien. Le parc de la Tarka sera construit sur la base d'un producteur d'électricité indépendant dans la région de Tawa, au sud du pays, et aura une capacité de 250 MW. Au Sénégal, une foire des agripreneurs, entendez là les entrepreneurs dans l'agriculture, a lieu à Dakar jusqu'au 2 avril. L'événement veut créer une dynamique de collaboration entre les acteurs agricoles sénégalais pour faciliter leur accès au marché et améliorer leurs revenus. Cette édition met l'accent sur la promotion et la valorisation des produits agricoles du bassin arachidier qui s'étend de Thiès dans l'ouest à Kaolack au centre. Le FMI a fait état ce mercredi de nouveaux progrès dans les discussions avec la Tunisie, mais insuffisamment pour que l'institution accorde son soutien financier à ce pays du Maghreb. Le FMI a mis l'accent sur les défis structurels majeurs de la Tunisie, ses investissements trop faibles et ses fortes inégalités sociales.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'Afrique a ses 5 représentants pour le prochain mondial au Qatar en fin d'année. Le Sénégal tombeur de l'Égypte comme en finale de la CAN, le Cameroun renversant contre l'Algérie. Le Maroc, la Tunisie et le Ghana ont décroché leur billet pour le mondial 2022 au Qatar à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Remake de la dernière finale de la CAN, l'affiche Sénégal-Égypte a poussé le mimétisme jusqu'à une nouvelle séance de tir au but. Et comme en février, l'exercice a tourné à l'avantage de Sadio Mané et des siens. 3 tirs réussis contre 1, 1-0 pour le Sénégal à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'Égypte avait réussi le même score à l'aller au Caire. Pour le coach du Sénégal, l'expérience de ces garçons a fait la différence.
C'est des garçons qui sont expérimentés. On a un ballon d'or avec nous. On a des garçons qui ont joué, qui ont gagné la Champions League. Donc je ne m'inquiétais pas sur la gestion des émotions. Je savais qu'on serait à la hauteur de cette rencontre-là. Et ça, c'est important. C'est la chance d'avoir vraiment des joueurs qui ont du vécu et qui ont de l'expérience.
Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, le champion d'Afrique en titre, disputera son 3e mondial, le 2e de suite, pour le plus grand bonheur des 50 000 spectateurs présents au stade flambant neuf Abdoulaye Wade de Damia Diou près du Dakar.
Le Sénégal mérite d'être qualifié pour le mondial. Et Inch'Allah, Rabbi, on va prendre la Coupe du Monde, Inch'Allah.
Terrible désillusion à l'inverse pour les supporters algériens à Blida. Victorieux 1-0 à l'aller au Cameroun, les Fenech ont été battus au bout de la prolongation par un but de Karl Toko Ekambi qui a porté le score à 2-1 et a qualifié les siens pour une 8e participation au mondial. Le Maroc sera également du voyage après son large succès 4-1 à Casablanca face à la République démocratique du Congo, 1-1 à l'aller. Dans les rues du Rabat, les fans des Lions de l'Atlas étaient intenables à l'image de Naïma.
Nous sommes sortis pour célébrer notre victoire. Vraiment, nous sommes très fiers des Lions de l'Atlas. Nous leur souhaitons tout le succès au Qatar. Nous sommes derrière eux. Nous souhaitons qu'ils fassent un bon mondial.
La Tunisie verra aussi le Qatar à la faveur de son succès 1-0 à l'aller au Mali. Dans ce duel retour, des aigles, ceux de Carthage, se sont contentés du nul 0-0, suffisant pour se qualifier et mettre Tunis en liesse. Un but à l'extérieur a aussi permis au Ghana de décrocher son billet pour le Qatar. Après le 0-0 à Accra, le nul 1-1 avec le Nigeria à Abuja donne aux Black Stars leur 4e participation à la Coupe du Monde. Cela a provoqué des scènes de violence au stade national Moshood Abiola. Déçus, des supporters nigériens ont pris d'assaut le terrain. Des projectiles ont été lancés et les joueurs gagnants ont dû se frayer un chemin jusqu'au tunnel. Dommage donc, selon la journaliste sportive nigériane Adefemi Akisania.
Nous savons que ce sont nos rivaux géographiques, nos rivaux dans le match. Donc nous savions que les tensions allaient être fortes. Mais je ne pense pas qu'un seul d'entre nous s'attendait à ce que cela se transforme en violence sur le terrain, en destruction. C'est une honte. C'est vraiment une honte.
Adefemi Akisania, journaliste sportive nigériane. Les Black Stars retrouvent la Coupe du Monde après 8 ans d'absence. Et comme pour le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc, la mission de ces représentants de l'Afrique au Qatar serait de faire mieux que les quarts de finale, un cap jamais franchi par une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a signé un projet de loi fédéral faisant du lynchage un crime de haine plus de 100 ans après la première proposition d'une telle législation. Nani Talani nous en dit plus.
La loi anti-lynchage Emmett Till porte le nom de l'adolescent noir tué après avoir été accusé d'avoir sifflé sur une femme blanche. Son meurtre, dans le Mississippi, à l'été 1955, a été déterminant dans l'ère des droits civiques. Lors de remarques mardi à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a souligné comment les morts violentes de Noirs américains ont été utilisées pour les intimider et les empêcher de voter.
Le lynchage était une pure terreur pour faire respecter le mensonge selon lequel tout le monde n'appartenait pas à l'Amérique, tout le monde n'a pas été créé égal. La terreur pour saper systématiquement les droits civiques durement obtenus. La terreur dans l'obscurité de la nuit, mais aussi en plein jour. Des hommes, des femmes, des enfants innocents pendus à des arbres. Des corps ont été brûlés, noyés et castrés pour avoir essayé de voter, d'aller à l'école, de posséder une entreprise ou empêcher de prêcher l'évangile. De fausses accusations de meurtre, d'incendie et de vol simplement parce qu'ils étaient noirs.
C'est
noir.
Le référent Wheeler Parker, dernier cousin vivant des Emmett Till.
Pendant plus de 100 ans, l'Amérique a dit non. Et cela en dit long. Maintenant, c'est passé. Un président l'a signé. Kamala Harris et ceux qui, comme Bobby Rush, ont introduit ce texte. Je suis ravi, ravi par ce qu'ils ont fait.
La nouvelle loi permet de poursuivre le lynchage comme un crime de haine entraînant la mort ou des lésions corporelles graves. La réaction de Marilyn Safokle, professeure à l'Université d'Harvard, ici même à Washington, D.C.
Quand on entend en effet parler de lynchage, ça nous ramène à des années auparavant, surtout à un siècle auparavant. Donc on a l'impression qu'il s'agit presque d'un anachronisme, mais c'est une loi qui justement marque l'histoire des États-Unis. Donc bien que ça paraisse être un anachronisme, c'est une loi qui, vu l'histoire du pays, est peut-être nécessaire.
Mais c'est qu'une loi qui est votée plus de 100 ans après, est-ce qu'elle pourra servir à quelque chose?
La loi peut-être qu'elle ne va pas servir à grand-chose, puisqu'on est dans une période qui est quand même complètement différente. Mais c'est une loi qui, vu l'histoire du pays, est nécessaire parce que cela montre que l'on ne peut pas reculer en arrière.
Cette loi anti-lynchage pourra-t-elle réparer quelque chose ou faire avancer la cause des Noirs?
Ce n'est pas une loi réparatrice, mais c'est une loi qui est quand même historique. On ne peut pas vraiment dire que c'est une loi qui va avancer la cause des Noirs, parce que c'est une loi qui se serait plutôt applicable aux circonstances d'un siècle auparavant. Toutefois, on peut dire que c'est une loi qui fait date dans l'histoire, qui marque l'histoire des États-Unis, parce qu'elle marque un point final à un chapitre extrêmement triste de l'histoire des États-Unis.
Le lynchage est une pratique de justice expéditive instaurée par Charles Lynch, un planteur de la Virginie. Par la suite, la pratique s'est répandue aux États-Unis et a souvent été menée par le Ku Klux Klan et des partisans de la suprématie blanche.
Au Tchad, la justice ne fonctionne pas depuis 2 semaines. Les magistrats sont en grève pour réclamer plus de sécurité car ils sont régulièrement agressés dans l'exercice de leurs fonctions par des agents de sécurité censés les protéger, dénoncent-ils. Le syndicat des magistrats continue d'enregistrer des cas d'agression. Le point avec André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Le procureur de la République de Kélo et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la dite localité ont été molestés et humiliés par les éléments de la commission du désarmement, comme en témoigne au micro de VOA Afrique Galia Habassala, l'une des victimes.
Lui, le procureur, là, il était d'ailleurs infirme. Donc on l'a mis à tabac et c'est dans la rue. Il avait son visage presque rempli du sang. Et moi-même, là, j'ai reçu un coup au niveau de la tête, un coup de côte, ensuite des succotes et des coups de boudin. On m'a cassé mon téléphone. Et comme maintenant, nous sommes dans une sorte de transition militaire et ils pensent que ce sont les militaires qui doivent être au-dessus de tout. Nous, on va mourir pour la justice, ça c'est clair.
Le juge de Bokoro et celui de Gorée en déplacement à Mundu ont vu leurs armes arrachées par les agents de sécurité se réclamant toujours de la commission du désarmement alors que la loi confère aux magistrats le port d'armes. Ces actes se sont produits entre dimanche et lundi pendant que les magistrats ferment toutes les juridictions du pays pour exiger plus de sécurité.
Ces événements-là ne sont pas le fait du hasard. Je crois que c'est une idéologie qui est connue et qui est en train de se mettre en œuvre. C'est l'exécution pratiquement. Nous créons d'autres actes plus graves dans la mesure où les magistrats ne vont pas se laisser faire. Il y aurait éventuellement des meurtres. Ça, je vous le préviens. Et l'État seul est responsable.
Djonga Arafi, secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad, il interpelle le président du conseil militaire de transition.
Nous n'allons pas laisser les chiens. Il faut que le président de la République, en étant président du conseil supérieur de la magistrature, réagisse promptement. Parce que le pire est à craindre. Et il faut assurément de la force pour exécuter les décisions. Vous ne pouvez pas prendre de quelqu'un, l'emprisonner, sans un cordon sécuritaire à côté. C'est pas possible, monsieur. Le dispositif sécuritaire dont on fait état, il est tant pour la sécurité des magistrats que pour les justiciables eux-mêmes. Parfois, il n'y a pas de cordon sécuritaire. S'il y en a, c'est un agent qu'on affecte sans moyen.
Pour Maître Adam Boukar, président par intérim de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, cette grève donne l'occasion aux policiers et gendarmes qui se transforment en justiciers, faisant subir la rigueur de la loi aux détenus préventifs sans aucune procédure légale. Il dénonce le silence du gouvernement.
Ils arrêtent les gens, ils ne respectent pas la procédure. Le délai de garde à vue n'est pas respecté, bafouant leurs droits de la défense. Vraiment, nous interpellons le gouvernement pour qu'il trouve des solutions dans les meilleurs délais. La justice est le rempart de l'état de droit. Et si la justice n'existe pas, ça veut dire que l'état de droit est mis à mal. Celui qui rend la justice, il faut qu'il soit protégé. Si c'était une autre revendication, on pourrait comprendre. Maintenant, cette fois-ci-là, ils sont persécutés. Les magistrats sont agressés, molestés, menottés. Donc, dans ces conditions, les gens ne peuvent pas travailler, on les comprend.
Aucune réaction du gouvernement alors que la justice tchadienne ne fonctionne pas depuis 2 semaines. Ce qui, selon les acteurs judiciaires, a des impacts négatifs sur les prévenus de la police judiciaire qui attendent du parquet une décision pour être situés sur leur sort. André Kodouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'Afrique a ses 5 représentants pour la Coupe du Monde de football prévue au Qatar à la fin de l'année. Le Sénégal, tombeur de l'Égypte comme en finale de la CAN, le Cameroun renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana ont décroché des billets pour le Mondial 2022 à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Qu'attendre de ces 5 équipes africaines pour la prochaine compétition ? Yacouba Ouedraogo a joint Élisée Onkpatine, consultant sportif au Bénin.
On a assisté à de très belles oppositions, il faut le dire, ces matchs qui ont tenu toutes leurs promesses, alors qu'on pensait que les équipes qui ont déjà pris leur avantage au match aller pouvaient s'en sortir. Et mais non, hein, cette fois, c'était sans compter sur le réveil de certaines sélections, notamment le Cameroun, qui a obtenu sa qualification dans un match où le suspense est resté entier jusqu'à la fin. Et que dire du Ghana, qui a privé le Nigeria, régulier depuis 1994, battu cette fois à domicile, même si le match et c'était soldé sur un nul de 1-0. Eh bien, le but marqué à l'extérieur a profité au Black Star. Et surtout du Sénégal, hein, qui a dû passer par la séance des tirs au but pour éliminer l'Égypte. Et comme lors de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, les Lions de la Teranga se sont remis une fois encore à Sadio Mané. La Tunisie, de son côté, s'est contentée de son avance du match aller face au Mali. Mais cette fois-ci, le match retour a été véritablement difficile. Sinon, seul le Maroc n'a pas eu de difficulté pour se débarrasser de la RDC. En somme, ces matchs qui ont apporté leur lot de surprises, de suspense, de confirmation et surtout d'émotion.
Il y a eu quand même des matchs à suspense, je pense notamment à Sénégal-Égypte. et puis Algérie-Cameroun. Finalement, selon vous, ce sont les meilleurs qui ont gagné?
On pouvait le dire, hein, surtout sur le match Sénégal-Égypte où les Sénégalais ont littéralement dominé les Pharaons et auraient dû tuer le match s'il n'y avait pas une manque d'efficacité. L'éternel problème que rencontrent d'ailleurs les joueurs sénégalais, heureusement que la différence a eu lieu au tir au but. Maintenant, à Blida, où l'Algérie a perdu son invincibilité, c'était plus engagé. Les Fenech ont légèrement dominé le match sans pour autant réussir à se qualifier. Les Camerounais, qui sont bien rentrés dans le match avec le but de Choupo-Moting, peuvent remercier leur gardien de but Onana qui a empêché 2 à 3 fois les Algériens de marquer. Oui, Yacouba, 2 qualifications méritées avec de manière différente.
Quelle doit être la mission de ces 5 représentants africains à ce mondial? Le Cameroun sera par exemple à sa 8e participation. À quoi faut-il s'attendre pour ces représentants africains-là?
Mais c'est simple, aller loin, essayer de faire mieux que les quarts de finale qui est notre limite. Maintenant, quand on prend les forces en présence, on ne pourra compter que sur le Sénégal. Mais pour ça, les poulains d'Aliou Cissé doivent se surmonter, augmenter le volume de leur jeu et être plus collectifs avant de s'appuyer sur leur individualité. Le Cameroun, moi, personnellement, je n'attends pas à grand-chose. C'est une équipe en reconstruction, tout comme le Maroc avec son expérimenté sélectionneur Vahid Ali Lodic. Et pour finir, Yacouba, le Ghana et la Tunisie, qui sont un peu en dessous, peuvent déjà se contenter de se qualifier. Ce sera une expérience de plus pour ces deux sélections qui peinent à retrouver leur équilibre avec une génération vieillissante.
Élisée Onkpatine est journaliste et consultant sportif au Bénin. Au Cameroun, des milliers de personnes sont descendues dans les rues en ville pour exprimer leur joie après la qualification des Lions indomptables pour la Coupe du Monde face aux Fenech d'Algérie. Notre correspondant Emmanuel Juntap a capté des scènes de liesse populaire à Yaoundé.
L'hymne national du Cameroun, repris en chœur par des dizaines de supporters des Lions indomptables. Le match vient à peine de s'achever sur une victoire inespérée du Cameroun face à l'Algérie. Les Camerounais de tout âge arpentent les rues des quartiers de Yaoundé. Certains sont enveloppés du drapeau national. À tout bout de rue, les fans chantent et dansent. Ils ont aussi beaucoup à dire sur cette victoire in extremis.
Tout Cameroun se sent fier. Je suis content et je sais que c'est le cas de tous les Camerounais. Mais c'était un but extraordinaire, inattendu, inattendu. Mais c'était un but qui nous a sauvés et nous ne sommes que contents.
On dit ceci, même si le lion a maigri, l'écureuil ne pourrait jamais porter ce lion. Alors, l'on demeure les lions et je suis fier d'être Camerounais.
Les fans des Lions indomptables sont heureux pour les joueurs. Mais ils célèbrent aussi l'entraîneur Hugo Bergson et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o.
Monsieur Hugo Bergson, vous êtes des Camerounais valables.
Je suis très content pour le coach Hugo Bergson qui a été formé à Clairefontaine avec les Zidane et les Kalakongo. Mais les Camerounais n'ont pas cru au très grand capitaine, au grand leader qui a été Hugo Bergson Bahanak. Aujourd'hui, il a su montrer aux Camerounais qu'il est l'homme de la situation avec le très grand président Samuel Eto'o. Je suis aussi très content pour notre très grand gardien, André Onana, qui dernièrement on a déclaré, c'était le coach du Barcelone, le coach des gardiens du Barcelone, qui a décidé que le Barcelone avait fait une erreur de laisser partir le futur meilleur gardien du monde.
Nous remercions vraiment les Lions qui ont prouvé une fois de plus qu'on peut les faire confiance. Samuel Eto'o vraiment qui essaye de donner le sourire aux Camerounais. Rigo Bergson, sur qui on a longtemps douté, mais qui prouve effectivement qu'à force de croire, on peut y arriver.
Le Cameroun, absent à la dernière Coupe du Monde, revient dans la cour des grands, selon les supporters.
Les Irons étaient cette fois-ci, les choses sont en train de revenir dans les normes. C'est ce que nous voulons. Et cette fois-ci, nous allons travailler et on fera une très bonne Coupe du Monde. Les gens seront surpris.
La nuit a été longue à Yaoundé et les regards sont désormais tournés vers le Qatar pour le tirage de sort des poules ce vendredi. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
« c'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.